La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Et si, en faisant nos courses, on pouvait changer le destin des familles entières? Et si à chaque passage en caisse, on ne se contentait plus d'acheter, mais de soutenir? Depuis plusieurs années, C'est qui le patron bouscule les codes de la grande distribution. Cette marque pas comme les autres, qui donne le pouvoir aux consommateurs de choisir des produits plus justes, plus transparents, plus solidaires, et surtout des produits qui rémunèrent à juste prix ceux qui produisent. Après avoir redonné de l'espoir à des éleveurs laitiers, des apiculteurs, elle s'attaque aujourd'hui à un nouveau combat, sauver des familles de producteurs de fruits et légumes. En France, un fruit et légume sur deux vient de l'étranger. Et derrière cette réalité, les producteurs proches de chez nous disparaissent. Pourtant cela se joue à pas grand-chose. Un exemple concret avec ce chiffre fou. Il manque seulement 60 centimes sur nos achats annuels de cerises pour que les producteurs puissent vivre de leur métier. Oui, on en consomme 400 grammes en moyenne et d'après les producteurs, il leur manquerait 1,50€ par kilo. Nous pouvons agir chacun à notre échelle, aidons les produits solidaires et à avoir plus de place dans les rayons. L'initiative de consommateurs, c'est qui le patron? La marque du consommateur donc, à savoir la cerise, viennent d'arriver dans vos rayons. L'initiative des consommateurs, c'est qui le patron, dont je fais partie, se mobilise pour soutenir les producteurs de fruits et légumes et le premier fruit, comme je vous l'ai dit, c'est la cerise. Alors oui, ça peut sembler petit, une cerise, mais derrière cette cerise, il y a une prise de conscience. Et derrière chaque prise de conscience, il y a un choix, celui de la résignation, celui de l'action. Et nous avons entre les mains un outil formidable, notre pouvoir d'achat. Et si on s'en servait pour bâtir un avenir où les producteurs vivent de leur métier, où les produits français sont valorisés et où la solidarité reprend sa place dans nos rayons? Ce n'est pas juste une question de commerce, c'est une question de cohérence, de respect et de fierté. Alors, à ceux qui essaient, continuez. À ceux qui hésitent, rejoignez le mouvement. Et à ceux qui doutent, regardez bien ce qu'une simple cerise est en train de réveiller. Au programme de cette matinale de 19h, à l'interview, nous aurons donc Maïwenn et nous parlerons de Pride des banlieues avec Stéphie, responsable communication, donc PDB. En flash info, nous aurons Fabien. En zoom, je vous parlerai du festival printemps Tzigane en compagnie de DJ Tagada. Et enfin, Arthur avec sa chronique. Vous êtes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Alors tout de suite, on retrouve Maïwenn et Stéphie pour l'interview donc, sur la Pride des banlieues. Bonsoir Stéphie.
Bonjour, bonsoir Francesca.
Bonsoir Maïwenn.
Bonsoir Francesca. Et oui, ce week-end aura lieu un événement majeur pour la communauté LGBT d'Île-de-France. Et je ne parle pas de la venue de Charlie XCX à We Love Green, mais bien de la Pride des banlieues. Ce rendez-vous annuel qui a lieu depuis 2019 pendant le mois de juin, le mois des fiertés, se déroulera en effet ce samedi. Le rendez-vous est à 13h à la gare de la Courneuve-Aubervilliers et la journée ne s'arrêtera pas après la marche puisqu'une after Pride est prévue au Dog Bay à Pantin. On va parler de cette journée, mais surtout de son importance politique pendant les 20 prochaines minutes. Et pour ça, on reçoit Stéphie, responsable de la communication de la Pride des banlieues. Encore une fois, bonsoir Stéphie.
Bonsoir Maïwenn, merci de nous recevoir.
Avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, une question un peu générale de contexte pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas la Pride des banlieues. Comment est venue l'initiative de créer une Pride spécialement pour les personnes qui habitent en banlieue?
Alors, la Pride des banlieues, comme tu l'as dit très justement, elle a été créée en 2019 par des jeunes gens qui vivaient en banlieue, à Saint-Denis plus spécifiquement. Et le constat initial, c'était... les personnes qui vivent dans les quartiers populaires font face à un certain nombre de violences, des violences institutionnelles, les violences policières, en plus de violences racistes, sexistes, classistes. Et ce sont des revendications qu'on ne retrouvait pas nécessairement dans des mouvements qu'on retrouve dans les centres urbains comme la Pride inter-LGBT par exemple. Et c'est ce qui a du coup donné naissance en 2019 à la première Pride des banlieues à Saint-Denis.
Merci. Justement, donc, tu l'as dit, elle est née d'une prise de conscience d'un manque de représentation et d'une volonté de faire valoir des spécificités. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire être queer quand on habite en banlieue ?
Qu'est-ce que ça veut dire être queer en banlieue ? En fait, je pense que en tant que personne queer de banlieue, on se réfléchit pas nécessairement comme queer de banlieue. On est queer, on vit en banlieue et on est plein d'autres choses également. Et en fait, nos vécus vont complètement nourrir notre manière de voir le monde et notre vécu va aussi mettre en lumière les discriminations auxquelles on fait face. À la Pride des banlieues, on utilise vraiment l'intersectionnalité comme grille d'analyse des discriminations auxquelles on fait face. Et il s'avère que souvent l'intersectionnalité est utilisée un peu comme un cumul des discriminations. Nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est pas un cumul. Ce qui se passe, c'est qu'on est littéralement à l'intersection de plusieurs discriminations et donc on ne peut pas diviser les luttes entre guillemets. On peut pas juste être LGBTQIA+ ou juste être de banlieue. On est les deux en même temps. Et donc là, j'ai donné deux exemples, mais c'est plein d'autres choses. C'est aussi être racisé, être immigré, être croyant, être handicapé, être précaire. C'est énormément d'identités qui se croisent et qui, du coup, nourrissent, enrichissent nos vécus. Mais dans le même temps, les discriminations, on les vit de manière beaucoup plus forte et brutale.
Mmh. Merci. Et alors, petite question de précision, c'est donc la Pride des banlieues, mais est-ce que les personnes donc, qui y viennent sont majoritairement des habitants et habitantes de banlieue ? Est-ce que les Parisiens et Parisiennes sont aussi invités à cette Pride ? Est-ce qu'il y a des personnes en dehors de l'Île-de-France ? À quel point vous rassemblez du monde ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Pride des banlieues, ce n'est pas seulement une marche, c'est aussi une association qui œuvre au quotidien auprès, pour la plupart, de populations qui vivent dans les quartiers populaires. Nous, comme on est originaire de banlieue, évidemment, c'est là où on travaille le plus. Mais je sais qu'initialement, au départ de la Pride des banlieues, on a tout de suite eu envie vraiment de valoriser les territoires marginalisés. Mmh. Et on a réfléchi à comment créer des prides des banlieues dans d'autres banlieues, pas juste la banlieue parisienne.
Et ça veut dire que vous en organisez ailleurs en France ?
On n'en organise pas ailleurs en France à l'heure actuelle. On a réfléchi à le faire et on a essayé de le faire. Après, on est une association qui a 6 ans maintenant.
Oui,
et donc, on manque de force vive et de financement pour pouvoir développer absolument tous les projets qu'on aimerait développer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place les années précédentes.
Oui, bien sûr. On reviendra justement là-dessus un petit peu plus tard. En 2023, le mot d'ordre de la Pride des banlieues, c'était de défendre la PMA pour tous. En 2024, c'était le refus de la récupération des luttes LGBTQIA+ par l'extrême droite. Et cette année, vous appelez à marcher contre la destruction du droit à la santé pour tous. Si je ne me trompe pas, pourquoi ce mot d'ordre cette année ?
Plus spécifiquement, effectivement, c'est complètement notre mot d'ordre. On appelle à marcher parce qu'on voudrait que l'État investisse des milliards d'euros dans la santé publique et pas dans l'armement. Mm-hmm. C'est hyper important. Pourquoi cette revendication phare ? Parce qu'en fait, les populations qui vivent dans les territoires marginalisés, donc ces populations, c'est les personnes racisées, les personnes immigrées, les personnes LGBTQIA+, c'est aussi les personnes handicapées. On est beaucoup plus précaire ou en tout cas précarisé par un certain nombre de politiques de santé publique. Et donc, on est les premières personnes à souffrir du désinvestissement de l'État dans la santé. Donc, en fait, pour te donner un exemple, en Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, c'est une zone d'intervention prioritaire. Mmh. C'est comme ça que l'ARS appelle les zones où, du coup, il faut mettre davantage de moyens dans la santé. Il me semble que c'est plus de 90% de déserts médicaux en Seine-Saint-Denis, c'est énorme. Plus de 1,5 million de personnes qui font face à une pénurie de soins. Donc, être précarisé, être comme ça à l'intersection de plusieurs discriminations, ça rend notre quotidien beaucoup d'autant plus difficile. Et c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'on perd on deuille nos morts et nos mortes du fait du syndrome méditerranéen. Je peux l'expliquer, mais en tout cas, c'est une vraie question de vie ou de mort pour nous, en fait, ce rapport et cet accès à la santé.
Oui, bien sûr. Merci. Et justement, en parlant de santé publique, à l'après des banlieues, tu le disais tout à l'heure, c'est pas uniquement une marche, c'est aussi une association avec d'autres actions. Et vous faites aussi des actions plutôt orientées santé publique et sensibilisation, avec des distributions de matériel d'affirmation de genre. Vous avez aussi des interventions au milieu scolaire auprès de parents. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces autres actions que vous mettez en œuvre?
Oui, absolument. Effectivement, on a un pôle d'aide communautaire à la Pride des banlieues. Et donc, à l'année, on porte comme ça des projets. Comme tu le disais, on a un projet qu'on a lancé l'an dernier. Donc, on a pu réaliser la deuxième saison de ce projet qui est la distribution, où on accompagne du coup des publics trans non binaires en leur distribuant des produits d'affirmation de genre et de santé sexuelle. On les forme également à l'auto-injection. Donc il y a beaucoup de, comment dire, l'idée c'est pas seulement de distribuer, c'est aussi de créer des espaces safe pour permettre à ces personnes de rentrer en contact en fait et de pouvoir bénéficier d'un matériel qui leur est vital. Comme tu l'as dit, effectivement, on réalise des interventions scolaires dans les collèges de Seine-Saint-Denis et dans certains lycées d'Île-de-France depuis cette année. Moi, à titre personnel, j'ai participé à un programme qui s'appelle Take Care, qui est un programme destiné aux personnes racisées qui sont victimes de discrimination liée au fait d'être racisée. Et donc, ce programme, l'idée, c'était d'organiser des ateliers d'art-thérapie et des groupes de parole pour, encore une fois, faire communauté autour de problématiques qu'on a tendance à vivre en isolation,
oui,
en fait.
Bien sûr.
Donc voilà, et t'as cité les parents, effectivement, on avait un projet pilote de parentalité où l'idée c'était d'accompagner quelques familles qui ont en leur sein des enfants LGBTQIA+, pour pouvoir recréer, réouvrir la discussion, fluidifier les échanges entre des parents et des enfants qui peut-être n'ont pas les bons le bon vocabulaire ou les bons réflexes pour que les parents comprennent ce que leurs enfants vivent et pour qu'à l'inverse les enfants se sentent plus à l'aise et plus safe à l'idée de se confier à leurs parents.
Ouais. Super, merci, merci d'avoir expliqué tout ça. Et justement, vous avez donc des revendications globales qui s'ancrent dans une lecture intersectionnelle, mais avec aussi un ancrage local. Au sein de la Seine-Saint-Denis, plutôt dans une dimension vraiment territoriale, ce serait quoi vos revendications
Cette année, donc comme je te le disais, je t'ai donné quelques exemples sur ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Nous, nos revendications, elles sont pas toujours juste locales ou elles ne concernent pas toujours seulement l'endroit où nous vivons. Parce qu'on est vraiment, on s'ancre vraiment dans une démarche qui nous dépasse, mais qui est plus grande que nous. Typiquement, cette problématique de la santé publique, on constate quand on interpelle l'État, on interpelle pas juste les collectivités locales. C'est vraiment au niveau du territoire hexagonal qu'on se situe, et pas seulement sur le territoire hexagonal. On constate également qu'il y a des problématiques liées à la santé publique dans les territoires ultramarins. On pense notamment à Mayotte, où le système de santé à Mayotte est complètement différent du nôtre. Les Mahorais et les Mahoraises n'ont pas accès au même régime de sécurité sociale que nous. Leur retraite complémentaire et l'assurance accident du travail, ils l'ont eu qu'en 2019. Des complémentaires qu'on a, nous, ils les ont eu en 2024. Donc vraiment, il y a une espèce de santé à deux vitesses, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la santé publique est à son balbutiement à Mayotte. Et nous, c'est presque comme si on suppliait pour avoir les mêmes droits que tous et toutes. Et on ne les a toujours pas en réalité.
Merci beaucoup. On va revenir juste après une petite pause musicale. On écoute Sophie avec le titre Immatériel.
I was just a lonely girl in the eyes of my inner child. I could be anything I want, and no matter where I go, you'll always be here in my heart, here in my heart, here in my heart. I don't even have to explain, just leave me alone now. I can't be held down, I can't be
C'était donc Sophie avec le titre Immatériel. Et tout de suite, on retrouve Maïwenn et Stéphie, donc responsable communication de la BDP, BDB. Voilà, voilà. Pour la suite de l'interview, merci beaucoup.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et oui, ce soir, on parle bien de la PDB, la Pride des banlieues, qui aura lieu ce samedi avec pour départ la gare de la Courneuve-Aubervilliers. Je suis avec Stéphie. J'ai une petite question liée à une actualité justement militante. La Pride radicale a été annulée cette année par manque de moyens dû à la gestion d'un litige juridique, mais aussi par fatigue militante. Est-ce que les mêmes problématiques pèsent sur la Pride des banlieues ?
Je pense que toutes les associations qui ont comme ça des revendications hyper radicales, elles ont des problématiques similaires. Tout simplement parce que, bah, tu le disais très justement, en fait, ce litige, il a pris énormément de temps, mais aussi de ressources financières à la Pride radicale, ce qui fait qu'elles ne sont pas plus en mesure d'organiser cette marche tous les ans. À la Pride des banlieues, les problématiques qu'on rencontre, c'est des problématiques qui sont assez similaires dans la mesure où on est une association qui est apolitique, donc et nos revendications, elles sont assez radicales, ou en tout cas, on est très vocal sur le fait qu'on ne veut pas être associé à des partis politiques, quels qu'ils soient, et on ne veut pas que nos revendications elles soient récupérées par les partis politiques. Donc ça n'aide pas nécessairement à faire financer nos projets, à faire financer la poursuite de l'association. Heureusement pour nous, on est hyper soutenu par la communauté chaque année, et ça, c'est une véritable chance. Et donc chaque année on découvre de nouveaux obstacles éventuellement, mais aussi de nouvelles opportunités. Et comme on est encore très jeune, on s'adapte, hein. Il n'y a pas de choix.
Justement, je me demandais tu l'as dit, vous êtes une association en plus apolitique, donc vous n'êtes pas financé par un parti ou quoi que ce soit. Comment vous vous financez concrètement ?
On est financé par les dons de notre communauté. Sur certains projets, on est aussi financés par des collectivités locales, typiquement les projets dont je te parlais tout à l'heure, la distribution, Tech Care, ce sont des projets qui ont été financés en partie par le département ou par la ville de Saint-Denis ou par des associations internationales dont nos luttes convergent finalement. Donc on participe à un certain nombre d'appels à projets, et quand on remporte ces appels à projets, on est en mesure de financer nos différentes actions et initiatives.
Super, merci pour cette petite explication. Et justement, en termes d'évolution, ça fait donc 6 ans que la Pride des banlieues existe. Si je ne me trompe pas, en 2020 et 2021, elle n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Mais quelle évolution vous avez eue en termes de personnes qui viennent, en termes d'affluence ?
En termes d'influence, en 2019, pour la première Pride, on était 3000 à marcher. L'année dernière, on était 17 500.
Okay. C'est une belle évolution.
C'est une très belle évolution. On a chaque année de plus en plus de personnes. On espère avoir 20 000 personnes, voire plus de 20 000 personnes samedi, parce que c'est déjà samedi, ça arrive très vite. Ce qui est très chouette, c'est que les gens s'intéressent de plus en plus à ce qu'on fait. On en est très heureux. On espère que ça va durer.
On espère aussi. Je voudrais parler d'un sujet un peu moins joyeux. Le mois des fiertés, il a une résonance particulière cette année dans un contexte de montée du fascisme en Europe et dans le monde. On pense à Meloni en Italie qui s'est beaucoup attaquée aux droits LGBT, notamment à ceux des lesbiennes. Il y a évidemment Trump aux États-Unis qui fait peser des menaces énormes sur la communauté LGBTQIA+, en particulier sur les personnes trans. Je me demandais comment, à la Pride des banlieues, vous ancrez votre action dans une perspective antifasciste.
En fait, typiquement, je trouve que nos revendications de cette année, on ne s'est pas juste concentré sur ce qu'on vit, nous, à notre échelle. On s'est vraiment ancré dans ce qui se passe à l'échelle internationale. Et on interpelle à notre niveau. Donc, on interpelle à notre niveau l'État. Et on déplore et on dénonce les politiques qu'on estime profondément néocolonial de l'État français, notamment pour Mayotte. Je parlais de Mayotte juste avant la pause. Ce qui se passe à Mayotte, c'est absolument inadmissible. On ne peut pas avoir d'une part, du coup, un territoire ultramarin qui est un département de la France où on est autant en recul dans l'accès à la santé, l'accès aux droits pour tous, pour toutes, et en même temps surmilitariser cet espace. Mayotte est surmilitarisée. En parallèle de ça, encore sur la santé, l'ARS propose à Mayotte aux femmes mahoraises de se faire stériliser. Or, le contrôle des populations, typiquement, c'est du colonialisme pur et dur. Donc on est comme ça dans une lecture de l'actualité qui s'ancre toujours dans une perspective soit décoloniale, soit antifasciste, Les deux, capitaine.
Oui, bien sûr. Et j'ai envie de dire que le principe même de la Pride des banlieues et de faire exister dans l'espace public les personnes queer et racisées était déjà antifasciste par essence. Mais je parlais d'un recul des droits des personnes LGBTQIA+, dans les pays en Europe, dans le monde en général. Selon la Pride des banlieues, ça a une influence sur ces mêmes droits en France ?
Je pense que oui. Je pense que oui. Et puis c'est une évidence en fait. Ce qui se passe, c'est que tu vois, notre appel à manifester, c'est plus d'argent dans la santé publique et pas dans l'armement. Ce que fait aujourd'hui la France et ce que fait aujourd'hui l'Europe, c'est qu'il y a une espèce de course pour l'armement. Qui est-ce qui va avoir le plus d'armes ? Qui est-ce qui va, voilà. On essaye un peu de montrer les muscles. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, typiquement, c'est le troisième vendeur d'armes au monde, juste derrière les États-Unis et la Russie. Et ces armes, elles ne sont pas du tout là pour protéger les Français. Elles sont là pour être vendues. Et sur ces dernières années, elles ont été vendues à des pays qui s'engagent dans des guerres sales au regard du droit humanitaire. Donc en fait, on ne va pas du tout dans le bon sens. Et les messages qui accompagnent cette course contre l'armement, c'est des messages qui sont impérialistes. Nous, on ne croit pas du tout à la France patriotique, à l'Europe patriotique. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ça ne nous intéresse pas du tout de voir la France s'armer pour, par exemple, défendre l'Ukraine face à la Russie. Quand la France ne bouge pas le petit doigt pour les Congolais, pour les Gazaouis, pour les Soudanais. Donc clairement, ce qui se passe dans le monde a des répercussions directes sur la politique en France et sur les décisions qui sont prises au plus haut sommet de l'État. Mmh.
Ouais, merci. Alors pour revenir sur une note un peu plus légère, puisqu'on approche déjà la fin de cette interview, on va se rappeler que face à tout ça, il faut lutter. Et justement, la lutte, ça passe par des événements et des organisations comme la Pride des banlieues. Donc voilà, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le programme de samedi, puisque ça approche. Comment va se dérouler la journée ?
Alors, la marche est une marche revendicative et festive. Donc la toute première partie de la journée, comme tu le disais tout à l'heure, rendez-vous 13h à la gare RER B de la Courneuve-Aubervilliers. On part à 14h. On arrive dans le parc de la Liberté à la Courneuve à 16h. À 16h, il y aura un certain nombre de discours et il y a un village associatif qui aura lieu jusqu'à 19h, 19h30. Okay. Et à partir de là, la fête qui aura lieu au Dog B, une première after party de 19h, 19h30 à environ minuit. Et pour les personnes les plus déterminées, un after d'after, toujours au Dog B de minuit à 6h.
Ok, trop bien, ça donne envie. Et pour les personnes qui vont voir Charlie XCX, vous n'avez pas d'excuses car elle passe à minuit, donc vous aurez le temps d'aller à la Pride avant.
Exactement.
Pour finir, une dernière question. Qu'est-ce que tu aurais, au nom de la Pride des banlieues, qu'est-ce que tu aurais à dire à des jeunes personnes queer, et pas uniquement jeunes d'ailleurs, potentiellement isolées, qui n'oseraient pas aller à la Pride des banlieues ce week-end ?
Je leur dirais c'est hyper important de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Nous, on a mis en place même un groupe sur Instagram où on incite les gens qui se sentent seuls à nous écrire pour faire un espèce de groupe comme ça de plein de petites personnes qui pensent être toutes seules dans leur coin. En fait, il y a plein de gens qui sont tout seuls dans leur coin et en fait, toutes ces personnes, ça fait un groupe de joyeux lurons. Donc vraiment, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Voilà, notre mouvement, c'est un mouvement revendicatif, évidemment. On lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+ dans les quartiers populaires, mais on veut aussi être un espace safe pour toutes ces personnes, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci beaucoup Sophie, merci Maïwenn, et tout de suite c'est le Flash Info.
Et c'est
Fabien. Bonjour Fabien.
Bonjour. Et on commence tout de suite avec un attentat raciste qui a eu lieu à Puget-sur-Argent. Le tribunal a requis la mise en examen de Christophe B. pour assassinat terroriste en raison de la religion, la race ou l'ethnie, ainsi que son placement en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir tué son voisin, Hichem Mirawi, de nationalité tunisienne, samedi vers 22h. Et puis France, toujours, pour son premier tournoi du Grand Chelem, Loïse Boisson a éliminé mercredi la Russe de 18 ans, Mira Andreeva, en quart de finale de Roland-Garros. Elle est venue à bout de la 6e mondiale en 2-7. Un exploit majuscule qui permet à la Française de se qualifier pour les demi-finales. International, feu vert de Bruxelles, la Commission européenne a annoncé mercredi 4 juin que la Bulgarie remplissait les conditions pour adopter la monnaie unique au 1er janvier 2026, ce qui en fera le 21e membre de la zone euro, 3 ans après l'entrée de la Croatie. La décision formelle doit être prise le 8 juillet, mais aucune opposition n'est attendue. États-Unis, les ressortissants d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, du Congo, de Guinée, d'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, etc. auront à partir du 9 juin l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers. Donald Trump justifie ce nouveau travel ban par la récente attaque dans le Colorado. Et enfin, pour terminer, culture, les rendez-vous au jardin sont de retour du 6 au 8 juin 2025. Partez à la découverte des plus beaux jardins partout en France et notamment à Paris et en Ile-de-France. Domaines d'exception, jardins remarquables, monuments historiques ou petits jardins privés, vous allez en voir de toutes les couleurs, vous perdre dans les allées parfaitement taillées ou vivre une immersion dans les jardins du monde entier et tout ça sans même quitter l'Ile-de-France. Et pour ça, il faut vous rendre sur rendez-vous-au-jardin.culture.gouv.fr.
Merci beaucoup Fabien, donc rendez-vous au jardin alors dans ce cas. Et tout de suite, on va faire une petite pause musicale, on va écouter les Louanges avec le titre Encore.
Encore une fois, encore une nuit. Non, 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 répit. Une dernière fois, un dernier cri. Juste avant la sortie. Ma langue appuyée sur ton bas-ventre déshabillé par mes doigts, le mien caressé par tes doigts. Encore une fois, encore une nuit. Encore une fois, encore une nuit. Une dernière fois, un dernier. Tes yeux, la corde raide sur laquelle on marche tous les deux, le rugissement des claques en rouge resteront les feux, le panneau d'arrêt au matin, le crissement des pneus. Encore une fois, encore une nuit. Une dernière fois, un dernier cri. Avant la sortie. Je serai toujours le même, tu sais.
Alors, nous venons d'écouter les louanges avec le titre Encore. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors, pour ce Zoom, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir DJ Tagada. On dit bien comme ça, hein ?
Exactement.
Donc, DJ Tagada, tu es fondateur et programmateur du Festival Printemps Tzigane.
Tout à fait.
Voilà. Donc, et ce soir, tu vas nous parler un petit peu de ce festival. Juste avant, et tu me dis si je me trompe, donc c'est un programme qui se trouve donc, sur trois lieux à Paris. Voilà. C'est la troisième édition.
Exactement.
Voilà.
Du 3-3.
Voilà, 3-3, du 13 au 15 juin. Et tu nous diras tout à l'heure un petit peu ce que c'est ce festival. Donc, trois lieux, Cirque Romanès dans le Paris 16, le Point Fort d'Aubervilliers et à la Cité Fertile. Et ça, c'est à Pantin.
C'est à Pantin, oui.
Voilà. Donc, alors, parle-nous de ce festival Printemps Tzigane. C'est quoi l'esprit de ce festival? Comment ça t'est venu, tout ça?
Alors, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis spécialisé dans ces musiques-là. Je suis le fondateur des soirées Balkan Beats à Paris. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec Rona Hartner, qui est un des personnages principaux du film Gaggio di Lo de Tony Gatliffe. Et donc voilà, ça a été des hasards, des accidents, des beaux accidents de la vie qui ont fait que je me suis retrouvé au milieu de cette musique, de cette culture. Et voilà, j'ai pendant toutes ces années eu la chance de rencontrer pas mal d'artistes, d'en produire, de produire de la musique, d'en recevoir en studio.
Du coup, tu as fondé le groupe Soviet Suprême.
Je suis un des fondateurs avec Thomas de la Caravane Pass du groupe Soviet Suprême. Pareil, un heureux accident, c'est à la base une blague ça s'est transformé. Hein. Voilà, un peu le festival aussi. On est parti sur un coup de tête. Sur un coup de tête, on a fait une première édition autour du festival Guča, qui est un festival qui se déroule en Serbie au mois d'août. Et c'est un festival spécialisé dans les fanfares tziganes et les fanfares traditionnelles tziganes d'Europe de l'Est, mais avec quand même une grande influence de fanfares serbes locales, quoi.
Voilà. D'accord. L'idée, c'était aussi de faire découvrir cette musique.
Oui, voilà, puisqu'on a à l'époque où j'ai commencé, on n'avait pas toutes ces, même pas Facebook, c'était MySpace à l'époque. Donc c'est vrai que c'était assez hermétique, c'était très très niche, tu vois.
D'accord.
Et du coup, je me suis senti, cette vocation de faire découvrir aux gens cette passion pour cette musique.
Autant y aller à l'endroit même, et puis.
Exactement. Et puis j'ai eu la chance aussi, de faire des voyages dans les Balkans, voilà. D'accident en accident, comme on va dire, d'accident heureux en accident heureux. Voilà, on a créé ce festival, première, deuxième, troisième édition cette année, qui est itinérante, donc sur ces trois lieux. Et quand même, on revient un peu à la source. On va jouer au Cirque Romanès, qui est un des cirques tziganes les plus vieux, les plus anciens d'Europe, avec la fanfarale du Ouzbékistan, qui est une fanfare chorale, voilà, qu'on adore. Marianne Badoy, qui est un virtuose de l'accordéon, qui est d'origine tzigane roumaine, et Bobisha Ferrari, qui est un artiste qui joue les traditions tziganes plutôt modernes, avec des claviers, boîtes à rythme. Enfin, c'est assez improbable, on aura aussi Douli en invité spécial. En marraine de festival.
Est-ce que le public le public qui vient voir et ou qui est habitué de ces musiques, ou est-ce que vous arrivez à vraiment ouvrir à la curiosité aussi? Parce que là, tout de suite, j'ai envie d'y aller, moi, du coup, finalement. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde?
C'est complètement hallucinant, puisqu'effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Et chaque année, on est surpris par le public qui est vraiment varié de tous bords. C'est extraordinaire, de tout âge. Et à chaque fois, on est très surpris. Il y a vraiment une ambiance assez... Ça peut paraître un peu vieillot sur le papier à la base, parce que c'est vrai que c'est des musiques qui sont traditionnelles. Mais au final, on arrive à trouver cette ferveur et folie contemporaine.
Justement, alors, tout à l'heure, quand j'ai préparé l'interview, j'ai demandé à mes collègues un peu dans le studio s'ils connaissaient cette musique. Ils m'ont dit bah non. Alors justement, alors, DJ Tagada, est-ce que tu peux justement, à ceux qui ne connaissent pas cette musique, leur donner envie de venir?
C'est des musiques où on peut vraiment partager nos valeurs. Voilà, c'est une musique qui respire la liberté, la joie. Elle est très tactile. C'est une musique qui véhicule vraiment beaucoup d'émotions, qui est proche de l'âme, des voilà, et autant dans la joie que dans la tristesse. Mmh. Tu vois, on peut, voilà, moi j'appelle, je dis que c'est toujours une musique entre la joie et la mélancolie. Quand t'es triste, t'oublies jamais la joie, et quand t'es joyeux, t'oublies pas la tristesse. Voilà, exactement.
Alors sur les trois dates, est-ce qu'il y a une date où on peut pas...
Je vais pas me tirer une balle dans le pied.
Évidemment, bon, que non. Oui. Mais admettons que du 13 au 15 juin, bon, il y a un jour où je peux pas y aller. Lequel je pourrais... ou des artistes peut-être qu'il faut.
Écoute, moi je suis fan de ce qu'on a fait au Point Fort d'Aubervilliers avec Antoine Tato Garcia. On reçoit une troupe de danse tzigane traditionnelle de Transylvanie. C'est une danse tzigane corporelle, donc assez, comment on dirait.
Un peu comme, enfin corporel, mais plutôt sensuel.
Non, pas du tout, très corporel, un peu entre le flamme, et tu vois les danses de flamenco, flamenco. Et la danse corporelle. Voilà, c'est assez spectaculaire et en même temps enjoué, quoi. Voilà, et léger en même temps. Et ils seront accompagnés par donc Nadara Gypsy Band, qui est aussi un groupe de musique traditionnelle de tzigane de Transylvanie. Mm-hmm. On a des Indiens du Rajasthan, et on fait, pour ceux qui aiment la musique manouche, une première masterclass donc sur les coups de 14-16 heures, vendredi, et avec une restitution pour le public. Donc on a cette joie de venir avec Samy Dossa un peu toucher, découvrir ce donc c'est ouvert à mais c'est multi-instrumentiste, hein, donc c'est ouvert à tous les instruments, et on va avoir cette chance de restituer ensuite devant le public ce qu'on aura appris avec Samy Dossa durant ces 2 heures.
Voilà. Alors du coup, justement, on a parlé de masterclass, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut y voir, justement? Parce que vu qu'il y avait quand même tout un programme.
Le programme, vas-y, sois plus, du coup. Parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais on ouvre assez tôt, en fait, au Point Fort. On aura le Dig Up, qui est un marché que une amie Pauline a monté, et qui est donc un marché autour, comment on appelle ça, du upcycling.
C'est ça, upcycling.
Voilà, oui. Du upcycling. Et donc, il y aura des créateurs, il va y avoir l'association FNASAT qui gère toutes les assos nationales qui gèrent la cause tzigane, gens du voyage, roms, juifs, toutes les minorités comme ça, de nomades. Et ensuite, il y aura une petite épicerie, il y aura un petit stand photo assez cool, une mini fête foraine, très mini, enfin c'est vraiment toute petite pour les enfants. Voilà, cette année, comme on avait la halle à disposition et qu'on ne pouvait pas vraiment faire de concert dessous, on s'est dit qu'on allait organiser un petit événement en plus l'après-midi.
D'accord, c'est vraiment, y a de tout, je vois des ateliers créatifs pour les petits, pour les grands.
Exactement,
comme vous avez dit tout à l'heure, marché nomade qui met le artisanal traditionnel.
C'est plus au courant que moi là-dessus, ça va. C'est ça, exactement ça.
C'est donc merveilleux. Et alors je reviens sur le samedi 14. Donc très très intéressant le marché, dans quel marché Tig Up.
Le Tig Up, oui. Alors c'est une invention de mon amie Pauline.
C'est ça que je veux savoir.
Et l'idée, c'est qu'en réalité, on est parti d'un constat, c'est que les Tziganes, dans leur culture et depuis des générations, de façon naturelle, recycle les choses ou les préserve. Donc dans la culture tzigane, tu le vois les matins quand tu te lèves, on les voit fouiller dans les poubelles et tout. Et en fait, c'est vital aussi parce que d'un côté ils revendent, mais de l'autre côté aussi ils recyclent, ils réparent des choses qui sont des fois irréparables. Ils ont cette je sais pas comment on dit, j'ai pas le terme juste, mais voilà, et on s'est dit pourquoi pas cette année axer en partie utiliser ce sujet-là et l'intégrer au festival. Voilà.
Qui est très riche la journée du samedi.
Oui.
Et on voit aussi, donc, il n'y a pas forcément que de la musique. Enfin, peut-être que si, hein, j'ai le Kawa Gypsy Brothers qui vont passer, c'est du jazz. Bah
Mais par contre, c'est des tziganes du Rajasthan. C'est gitans du Rajasthan. En fait, on refait la route de l'Achodrome, le film phare de Tony Gatliff, qui est un grand réalisateur qui a vraiment traité le sujet en long et en large et de façon vraiment magnifique. Je vous le conseille. On part du Rajasthan pour finir en Espagne. Donc là, voilà, en gros, c'est ça. On part avec eux du Rajasthan, on passe par la Transylvanie, par la France avec Samy Dossa et les Manouches, et on termine avec Antoine Tato Garcia en Espagne. Voilà.
Génial. Alors, un dernier mot pour nos auditeurs, auditrices
Bah écoutez, pour ceux qui connaissent pas, venez les yeux fermés. Si vous êtes vraiment réticents à la musique traditionnelle, le dimanche à la Cité Fertile, on a justement soigné la programmation en dévoilant des artistes qui, depuis quelque temps, mixent l'électro ou les nouvelles tendances avec la musique traditionnelle. Donc voilà, on aura Yuti, Alizarina, Isadora. C'est toute une nouvelle génération qui s'implique dans les sons actuels et qui mélange ça avec le son des Balkans et de la musique tzigane. Voilà.
En tout cas, merci.
Ben merci à vous, c'est fantastique. On est bien reçu. C'est presque trop court, mais voilà. J'espère qu'on vous aura donné envie.
Justement, je vais essayer d'être très très complète dans tout ce programme. Mm-hmm. Et t'hésite pas à m'arrêter, du coup. Mm-hmm. On y va. Alors, donc, du 13 au 15 juin, on est d'accord. Donc, trois lieux différents. Le vendredi, on sera... Enfin, on essaye. Hein.
Oui, t'es là, on part maintenant, allez.
Vendredi, donc, on sera au Cirque Romanès de 18h à minuit.
Tout à fait.
Voilà. Le samedi 14 juin, on sera le Pont Fort d'Aubervilliers.
Le Pont Fort d'Aubervilliers.
De 15h à minuit.
Voilà.
Et ensuite, le dimanche 15 à la Cité Fertile, de midi à 1h du matin.
Voilà. On est juste, si vous avez envie de participer et venir dans l'équipe des bénévoles, il reste quelques places. Donc, je donne le mail.
D'accord.
Donc, c'est printemps-tzigane@gmail.com.
Voilà,
pour ceux qui voudraient venir participer et assister au festival, parce qu'on sait que c'est pas facile pour les étudiants et c'est pas facile. Bon, mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On est des gens assez cool et tout va bien se passer.
Oui, je rassure, ça va, il est cool. Et donc bien sûr, donc la billetterie sur Shotgun
et billet web aussi.
Exactement.
Voilà.
Et puis pour toutes les autres informations, vous pouvez les retrouver sur l'Instagram du festival ou l'Instagram de DJ Tagata.
Tout à fait.
C'est ça.
Voilà, exactement.
Et ou sinon, vous avez aussi sur le site officiel du festival Le Point Fort. Donc, voilà. Et j'oublie pas, c'est gratuit pour les enfants.
Et c'est gratuit pour les enfants.
De moins de 12 ans. Voilà.
De moins de 12 ans. Tout à fait.
En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu.
Merci à toi, Francesca. C'était vraiment très cool.
Tout de suite, nous allons écouter donc Antoine Tato Garcia, le titre La Catalane.
Olé.
Olé.
Quieres tocar la rumba como se hace en Cataluña, una guitarra sonando y dos palmas que retumban, tienes que tener sabor tocando el ventilador. Si no te corre en la vena, eso no lo hace cualquiera, como lo hace Peray, que yo no mato, no voy a matar ese gitano fino, fino, filipino, como lo hace y un día tiene el ritmo y armonía, sacando las tradiciones con el ritmo que hay un día. Tienes que saber, señores, que son rumberos mayores, porque ellos tienen la llave y lo hacen como nadie. ¿Cómo lo hace Peray? Que yo lo mato, lo voy a matar. Este gitano vino, fino, filipino. ¿Cómo lo hace Peray? Que yo lo mato, lo voy a matar. Ese gitano fino, fino. Si quieres tocar la rumba,
Nous venons donc d'écouter Antoine Tato Garcia avec le titre La Catalane. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Et il est 19h52.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, on retrouve donc Arthur pour sa chronique. Arthur qui a découvert qu'il était un homme depuis samedi. Ben, j'ai hâte de savoir.
Merci, bonjour à tout le monde, bonjour à toi. Je m'appelle Arthur Avix et ça fait quelques années que j'essaye d'être un mec déconstruit. C'est-à-dire que chaque jour que Macron fait, j'essaye d'être un homme qui fixe ses propres normes et qui refuse le modèle masculin qu'on lui impose. Et franchement, c'est quelque chose qui fonctionne.
Ouais.
J'assume tout à fait d'être un être humain qui a des émotions. Je pleure et j'en ai pas honte. Le générique de l'émission Automoto, je le connais pas. Si tu me demandes ce que c'est qu'un développé couché, pour moi, c'est une manœuvre qui s'effectue avec un engin de chantier. Et puis très souvent, ça m'arrive de regarder l'émission Ça commence aujourd'hui et de me mettre à pleurer avec les invités. Et quand Faustine Bollard sort un paquet de mouchoirs derrière un coussin, eh ben je la trouve extraordinaire et j'ai envie qu'elle me suive partout dans ma vie, notamment à la fin d'une déclaration d'impôt. Ou alors, après avoir écouté l'interview d'une heure de Nicolas Bedos chez Léa Salamé, où il explique que oh, c'est pas fastoche d'être un homme blanc privilégié et en plus un agresseur. Bref, je fais un travail sur moi depuis longtemps et même si j'ai encore du chemin, je crois sincèrement que je suis sur la bonne voie. Enfin, je le croyais jusqu'à samedi soir dernier, jusqu'au soir de la finale de Ligue des Champions, je suis redevenu un homme tout ce qu'il y a de plus primitif, comme tous les autres hommes, les hommes avec un Z. Déjà, ce soir-là, je devais bosser, et comme à mes yeux le match était hyper important, j'ai posé un jour de congé. Alors, je sais pas si tu te rends bien compte de l'ampleur du problème. J'ai posé un jour de congé pour aller au bar. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon existence pour que soudainement je prenne les mêmes décisions que le chanteur Renaud ? Je me suis retrouvé au milieu d'un bar avec une cinquantaine de gars. C'était la première réunion en non-mixité uniquement composée d'hommes blancs hétéros.
Oh mais non.
Et là, c'était parti pour 90 minutes de masculinité exacerbée. 90 minutes où chaque homme va à un moment donné crier en direction d'un téléviseur en étant persuadé qu'il y a un joueur sur le terrain qui peut l'entendre. Et déjà, c'est moi qui ai ouvert le bal. J'ai honte de le dire, mais c'est moi qui ai ouvert le bal. Coup de sifflet, le match commence et j'ai crié « Allez, c'est parti les gars, elle est pour nous ce soir !» Elle est pour nous. Visiblement, je fais partie du staff du PSG, j'étais pas au courant. Mais le gars, c'est le gars qui sommeille au fond de moi, il est sous contrat a priori. Ça me fait plaisir. Au même moment, il y a un gars à côté de moi qui crie « Allez les mecs, on les encourage comme si on était au stade !» Bon, à ce moment-là, on s'est créé un imaginaire, tu vois. On avait des envies d'ailleurs. Et pourquoi pas ? C'est ok. Et après, c'était parti pour tout un match où n'importe qui peut crier ce qu'il veut devant la télévision. Faut juste que ça ait l'air un peu technique et mettre de la conviction dans la voix. C'est comme ça que je me suis surpris à crier à un moment donné « Allez, on change d'aile, on fait circuler le ballon !» Alors que vraiment, j'ai zéro légitimité à dire ça. La dernière fois que j'ai joué au foot, c'était il y a 2 ans, dans un gymnase à Aubervilliers, et j'y suis jamais retourné parce que je préférais boire des coups en terrasse. Et dans le bar où j'étais, on était tous comme ça. Que des mecs qui sortent des termes un peu techniques pour faire genre qu'ils s'y connaissent alors qu'ils savent pas faire. On se serait cru dans un rassemblement d'hommes hétéros qui parlent de l'orgasme féminin. Mais comme entre nous, on arrive à se convaincre, eh ben on a l'impression que c'est vrai. Et en fait, c'est ça le lien d'âme qu'on a avec le foot, nous, les petites choses fragiles que nous sommes, les hommes. Tu sais, quand on hurle devant un téléviseur de bar PMU fatigué par la vie, c'est pas pour, pour que le joueur nous entende, non. C'est pour que les autres hommes autour de nous nous valident. Tu sais, c'est pile entre le concours de tub et le petit câlin de première journée de grippe fait par quelqu'un qu'on aime. Tu sais, c'est pile entre les deux. Et on le voit quand on gagne la Ligue des Champions, les hommes dans la rue, qu'ils se connaissent ou non d'ailleurs, hein. Ils s'embrassent, se prennent dans les bras, se disent « je t'aime » ou dégomment la vitrine d'un Sephora. Mais quand ils le font, c'est en se regardant dans les yeux avec une envie de se faire des bisous. Et quand à ce moment-là, un mec dit à un autre « vas-y, vide la caisse et prends du mascara !» En réalité, ce qu'il veut vraiment lui dire, c'est « hé, regarde-moi, accepte-moi et dis-moi que tu me trouves beau. » Alors, messieurs les hommes, nous qui avons grandi dans une société qui nous permet tout, permettons-nous de mettre en avant nos sensibilités, nos fragilités, nos failles, nos émotions. Arrêtons de hurler dans les bars en espérant qu'on nous remarque. Arrêtons de crier sur des vieux téléviseurs Samsung, vieux de 15 ans qui sont fatigués de nous voir. N'ayons pas besoin d'événements sportifs pseudo-virils pour nous aimer ouvertement. Prenons-nous dans les bras et disons-nous « hé ». Petite chose fragile que tu es très beau, je t'aime, et ensemble, on a éclaté l'Inter Milan 5-0, c'est la plus belle finale que j'ai jamais vue de ma vie. Mais sache que même si le football n'avait pas été de la partie ce soir, je pourrais te dire que sur le terrain de mon affection, tu n'es pas sur le banc. Tu es bel et bien titulaire, avec un beau maillot et de belles chaussures à ta pointure.
Merci beaucoup, Arthur.
Merci à toi, merci à Jean-Claude.
Et surtout, ne cassez rien pour la prochaine fois qu'il y aura une belle victoire. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. Merci Maïwenn pour l'interview et la coordination de cette émission. Merci Fabien pour le Flash Info. Arthur pour sa chronique, maintenant qu'il est un homme. Et merci Simon pour la réalisation. On revient mardi, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts, la matinale-RCP, sur Instagram aussi. Très bonne soirée sur le 93.9 et à mardi.